Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons eu la parabole du Fils prodigue où il y a, entre autres, cet accent qui est mis sur le fait que nous devons renoncer au péché, que nous devons renoncer aux œuvres qui sont mauvaises, et c'est-à-dire que nous devons apprendre à renoncer à nos passions, à notre égoïsme, et de retourner en proximité de Dieu, en proximité du Père, et que c'est d'ailleurs pour ça que le Père a envoyé son Fils, c'était pour nous ramener au bercail. Et donc, comme dans l'évangile de la semaine dernière, l'accent était surtout mis sur le fait de ne pas dissiper notre vie dans des choses qui sont mauvaises ou même inutiles. Et aujourd'hui, il y a l'accomplissement ou la deuxième partie, quelque part, de cet évangile, puisque aujourd'hui, nous mettons l'accent surtout sur les vertus, sur les bonnes œuvres. Quelque part, cet évangile nous dit qu'il n'est pas suffisant de ne pas faire ce qui est mal, mais qu'en plus, il faut faire ce qui est bien. Et aujourd'hui, c'est aussi l'évangile du jugement dernier, c'est-à-dire que nous nous préparons à ce jour terrible qui sera la détermination définitive de là où nous vivrons. Et comme le disent les saints-pères, la mémoire de la mort et la mémoire ou le souvenir du jugement dernier nous permet déjà de vivre dans le monde comme si nous n'y étions pas vraiment pour toujours. C'est-à-dire que quand on se souvient du jugement dernier ou de la mort, eh bien nous arrivons à ne pas faire des péchés ou ne pas assouvir nos passions qui sont mauvaises et qui ne mènent à rien, et justement nous permet aussi de plutôt exploiter la vertu, d'exploiter les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, c'est quelque chose qui n'est pas si simple à comprendre. Souvent on voit que les bonnes œuvres sont traduites aujourd'hui dans un humanisme, c'est-à-dire que on veut le bien sur la terre, et même aujourd'hui, je dirais, les gens qui ne sont pas chrétiens ont cette culture de l'humanisme, de vouloir faire des œuvres philanthropiques. Et derrière cela se cache finalement, derrière cette façade de bienfaisance, se cache finalement une chose que nous ne connaissons pas véritablement, c'est-à-dire est-ce que la personne dans son fond est-elle bonne ou pas. Et cet évangile nous le révèle, ne révèle pas évidemment si un tel ou un tel est bon ou mauvais, mais révèle la disposition ou la disposition intérieure que nous devrions avoir. Et là, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à expliquer, mais tout de même très importante, c'est que, en réalité, quand le Christ parle du Christ que vous m'avez revêtu, que vous m'avez nourri, et les justes disent « mais on ne t'a jamais vu, on ne t'a pas nourri, on ne t'a pas revêtu », eh bien le Christ dit « mais ce que vous avez fait au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous l'avez fait ». Qu'est-ce que nous devons comprendre par le Christ dans le monde, vu que nous ne le voyons pas, vu que ce n'est pas directement lui que nous allons revêtir, à lui que nous allons donner de la nourriture? Eh bien, est-ce que c'est véritablement le pauvre? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? En réalité, ça veut dire que celui qui réussit à rentrer à nouveau en communion avec l'autre réussit à faire son salut, c'est-à-dire réussit à devenir saint, réussit à faire le Christ qui vit proche de lui. Alors qu'est-ce que c'est que rentrer en communion avec l'autre? Eh bien, c'est d'abord, comme exemple, l'Église que nous pouvons prendre. Vous savez que l'Église est le corps du Christ, et que nous avons en tant que paroissiens, pas seulement en tant que paroissiens, mais en tant que membres de l'Église, comme mission de servir dans l'Église, d'être un membre de l'Église. Et dans cette communauté de la paroisse, eh bien, nous arrivons par nos actions à servir Dieu, à servir le Christ, à servir le Seigneur. Et là, c'est une chose qui, petit à petit, s'est perdue justement à cause de l'humanisme, à cause de l'individualisme. On ne comprend plus vraiment le sens de la communion. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus le sens de la collaboration. Comme dans une entreprise, eh bien, chacun a sa fonction. Et si quelqu'un manque à son devoir, eh bien, toute la chaîne de production ou toute l'entreprise est mise en basculement, est mise à défaut. C'est la même chose dans toute entité corporelle, c'est la même chose dans toute communion. C'est que nous devons assumer notre responsabilité en tant que membres du corps du Christ. C'est ça qui nous fait rentrer en communion. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas de nous que nous fassions des grandes choses pour l'Église, mais Dieu attend de nous que nous fassions les petites choses que nous avons assumées, de les faire le mieux possible. C'est ça qui nous fait rentrer dans cette symbiose de l'Église, de l'organisation, et c'est ça qui nous fait justement rentrer en communion avec le Christ, c'est ça qui fait de nous aussi ce que l'Évangile dit, que nous avons fait cela pour le Christ. Et quand nous faisons cela pour le Christ, effectivement, nous sommes les bénis du Seigneur. Et nous sommes des êtres qui sont en communion aussi avec le Seigneur. Alors, l'exemple des brebis et des boucs est très révélatrice, si je peux dire, ou révélateur plutôt. C'est que quand on connaît les brebis, on voit qu'elles sont très unies. Quand une part quelque part, toutes ont tendance à les suivre. Elles mangent aussi souvent ce que leur berger leur donne. Alors que les boucs, eux, sont des êtres individuels qui cherchent à prendre ce qu'ils veulent et qui, malheureusement, en conséquence, n'ont finalement personne pour les nourrir et doivent souvent se nourrir de chardons et de herbes sèches. Eh bien, c'est à nous à faire le choix. Qu'est-ce que nous décidons ? Est-ce que nous décidons de vivre en communion avec le Seigneur, en le servant, à travers les petites choses que nous pouvons faire dans l'Église, ou bien est-ce que nous décidons de vivre de notre vie de manière indépendante, individuelle, même si nous allons à l'Église, nous pouvons vivre de manière individuelle, mais alors effectivement, il n'y a pas cette même communion avec le Seigneur. Et quand on parle de la communion des saints, en réalité, c'est ça que ça veut dire. Il y a d'abord la communion des saints au niveau physique, temporel, celui que nous voyons, qui nous fait rentrer en communion avec les saints qui sont vivants, qui sont peut-être trépassés, mais qui sont vivants parce qu'ils sont toujours présents et parce que le Seigneur est avec eux et parce qu'ils sont effectivement là. C'est ça qui fait d'eux des êtres vivants, c'est qu'ils vivent encore prestamment ou présentement dans notre vie et que nous pouvons les invoquer, qu'ils peuvent nous aider. C'est ça que nous devons essayer de comprendre de plus en plus, effectivement, c'est que cette communion que nous avons à travers l'Église fait de nous des communions de la sainteté et que nous rentrons aussi en communion avec les saints et en communion avec le Seigneur et que par réciproque, par retour, nous sommes nourris par le Seigneur, que nous avons sa grâce et que nous avons non seulement sa grâce spirituelle, mais que nous recevons aussi tout ce qui est nécessaire dans notre vie et que nous ne devons plus nous tracasser, nous, personnellement, de comment est-ce que nous allons vivre. Voilà ce que explique cet évangile, c'est que servir l'Église ne veut pas seulement dire faire une petite tâche dans l'Église, mais c'est être à l'écoute de l'autre, c'est être disponible pour l'autre, et souvent, peut-être même plus pour le petit, celui qu'on ne voit pas, celui qui est inconnu, celui qui est même peut-être rejeté. On a le réflexe souvent d'aller se mettre bien avec des gens qui sont renommés. Avec eux, on va offrir des repas, on va essayer de faire en sorte qu'on soit bien vu par lui. Mais le petit ou celui qui est ignoré, celui qu'on ne voit pas souvent, est laissé pour compte et lui, on ne prend pas soin de lui. C'est ça que veut dire cet évangile, c'est que nous sommes en communion, ça veut dire que nous cherchons non pas notre intérêt, mais que nous cherchons l'intérêt de l'Église, que nous cherchons l'intérêt de notre prochain qui est peut-être le plus petit. C'est ça que nous devons développer tout doucement dans notre vie, c'est de prendre en responsabilité notre membre, en tant que membre de l'Église, et de nous y investir, non pas comme étant une obligation morale, mais comme étant un moyen de nous sanctifier, un moyen de rentrer en communion avec le Seigneur et rentrer en communion avec les saints. Voilà ce que nous dit cet évangile. Essayons, dans notre vie, d'être attentifs à cela. Ne pas être au service de ceux qui sont les plus renommés, les plus en vue, mais d'être au service de l'Église de manière gratuite, surtout pour les plus petits, parce que c'est là où nous servons le Seigneur, comme il le dit. Comme nous connaissons très bien la vie de Saint Martin, lui qui aurait pu être parmi les grands, puisque lui-même, il est devenu évêque, parce que lui-même, il aurait pu l'être, parce qu'il avait toutes les capacités pour l'être. En tant que soldat, il a préféré donner son manteau à quelqu'un qui ne lui donnera jamais en retour quelque chose, parce qu'il était pauvre de telle manière qu'il n'avait même pas de quoi se vêtir. Eh bien, Martin, lui, il a pris ce courage, et dans le froid, il a donné ce que normalement on ne donne pas, c'est-à-dire son habit militaire, et c'est ça qui a révélé qu'en réalité, il avait habillé le Christ. Que pour nous aussi, cet exemple de Saint-Martin puisse être une motivation dans notre vie, non pas de chercher la gloire à travers nos actes de bienfaisance, mais de chercher plutôt la gloire scellée, c'est-à-dire de rechercher plutôt l'amour de Dieu, la communion avec lui dans nos œuvres de bienfaisance, pour qu'elles ne soient effectivement véritables. Voilà ce que nous dit cet évangile, et que nous puissions le comprendre et le vivre. Dieu ne demande pas des grandes choses de nous, Dieu nous demande d'être fidèles. Amen.